Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges,
sur les ondes de Radio Coteau,
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview,
agenda,
musique.
Vous saurez tout, tout, tout sur le Comminges.
Voilà, on va passer maintenant à la chronique de Marie, comme tous les mois. Marie nous parle d'une plante et de ses vertus médicinales. Et ce mois-ci, plante d'actualité, la reine des prés.
Électivement, la reine des prés, oui, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a l'achillée encore, il y a l'aigre moine qui arrive, mais bon...
Le millepertuis.
Le millepertuis, oui, mais
l'herbe
bon,
de la Saint-Jean.
Il a fallu que je choisisse.
Mais...
c'est difficile.
La reine des prés a été le choix de ton cœur pour ce mois de juillet.
Tout à fait. Alors la reine des prés, c'est une grande plante, une grande médicinale, et on dit même une grande médecine. On la trouve dans les milieux humides, dans le nord de l'Amérique, mais aussi dans toute l'Europe, dans les milieux donc près des fossés ou...
Alors elle est facile à voir en ce moment... au bord de la route, dans les fossés. Bon,
oui.
C'est pas forcément là que c'est le mieux de la ramasser.
Non, voilà. Ou alors si c'est des petites routes. Si c'est des petites routes comme chez nous, enfin comme chez toi, Angelo, je crois qu'il n'y a pas de souci. Voilà. C'est donc une rosacée du genre spirée. Alors je vous le dis parce qu'après, il y a quelque chose dans son nom étymologiquement. Cette belle des prés, on dit ulmus. Donc ulmaria, ça vient de ulmus, l'orme. Et il y a une, parce qu'il y a une ressemblance avec les folioles et filipendula, ce sont les tubercules qui sont suspendus et qui ressemblent à une autre ulmaire, mais c'est pas la petite ulmaria qu'on a vue depuis un mois pousser partout.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a deux reines des prés, enfin deux plantes du genre ulmus qui se ressemblent beaucoup au niveau des fleurs.
Oui.
Avec ces ça fait des petites sortes
des petits plumeaux,
blancs.
Voilà. Très fin.
Très fin, avec un petit rose, enfin un blanc crème, un peu
oui.
Jaune. Et donc il y a deux espèces. Il y a celle qui fleurit depuis un mois. Donc tu disais, c'est
oui, la petite,
la Minor,
on va dire.
Je crois, elle s'appelle.
Oui, Minor, oui.
Qui n'a pas du tout les mêmes vertus, et notamment elle n'a pas les vertus qu'on cherche dans la reine des prés
voilà,
traditionnelle.
C'est pour ça qu'elle est, elle n'est pas dans mes fiches de l'ELPM en tout cas.
Donc mais, de ta formation de l'école lyonnaise des plantes.
Non, elle n'y est pas.
Elle n'y est pas, mais bah, c'est bien de la connaître parce
oui.
Que pour la différencier de
exactement.
L'autre.
Exactement. Donc la petite.
Donc, les fleurs ressemblent, mais les feuilles sont différentes.
Voilà, les feuilles ressemblent un petit peu aux feuilles d'achillée. D'ailleurs,
c'est des... Alors, sur la mineure, tu parles là.
Oui, sur la mineure.
Sur
donc
la petite,
petite oui.
Qu'on n'utilise pas, c'est pas celle dont on va parler. Donc,
voilà.
Il y a des petites feuilles très très découpées.
Comme millefeuille en fait, hein. comme les feuilles de l'achillée millefeuille.
Ouais.
Voilà.
Alors
sont,
que la grande, elle a plus feuilles un peu comme du fraisier, mais en plus petit, avec une tige marron.
Rougeâtre.
Rougeâtre.
Rougeâtre, on va dire. Mais en fait, c'est surtout que c'est une typique des rosacées. Elle a vraiment cette feuille, oui, comme tu dis, de fraisier ou de ronce, on dirait vraiment.
Mais sur plusieurs
voilà.
Étages, en fait.
Voilà.
Elle a les trois folioles de la rose, de la.
Oui.
Du fraisier classique,
oui, du fraisier.
Mais sur le en bas de la tige, bah, ça continue avec des petits folioles
voilà.
du même style, entrecoupés de toutes petites feuilles, de tout petits folioles à la base de ces folioles
ouais.
Un peu plus grands. C'est comme ça un peu qu'on la reconnaît, en plus de la
la fleur.
De la fleur.
Ouais.
Et puis cette odeur caractéristique aussi.
Du miel là, enfin une
à
odeur.
À la fois de la fleur et puis des tiges.
Oui. Une odeur de miel. Alors, bon, c'est pas une aromatique, mais quand on froisse la feuille, quand même, la fleur, je veux dire, ou quand on la met à sécher, elle est vraiment prégnante.
La base de la feuille aussi, il sent un peu si on l'arrache
ah oui,
en
la
hiver, enfin,
ah oui.
Au printemps,
mm-hmm.
Là, j'en ai récolté,
oui.
On sent cette
ah
odeur
oui.
Caractéristique un peu.
Bon, de toute façon, les sommités fleuries sont utilisées. On dit que les fleurs, par contre, sont plus puissantes hein, au niveau des constituants anti-inflammatoires, parce qu'elle a des flavonoïdes, elle est très très intéressante à ce niveau-là. Mais bon, on peut utiliser les feuilles du haut de la plante,
les
de la tige.
Les petites feuilles,
voilà.
Dans la sommité fleurie, c'est les petites feuilles plus les fleurs.
C'est ça. Ouais. Alors bon, donc là, c'est une grande plante herbacée. Je continue juste un tout petit
Vas-y.
Peu. C'est donc des feuilles imparipennées, 3 à 9 paires de folioles inégales pour les botanistes. Et elle a des fruits qu'on appelle akènes en spirale. Et c'est pour cela donc, qu'on l'appelle, enfin que le genre est Spirée. Elle est cataloguée dans le genre Spirae. Mais moi j'avais une autre étymologie, en fait, du mot arabe aussi. On peut dire que c'est aussi spiré, mais ça ressemble à aspre. Et c'est l'aspirine qu'il y a dans la plante qui a fait qu'on l'appelle aussi spiré. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est mon professeur Pascal Vessy qui nous disait que c'était un mot arabe. Et j'ai rencontré une linguiste il y a peu de temps qui nous a dit « Non, 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 c'est un mot grec. » Alors, il y a controverse.
En tout cas, il y a une liaison entre l'aspirine et l'aspirée.
L'aspirée,
ça,
voilà.
Sûr.
Oui. Et aspre, donc ce mot étymologique. Enfin de...
Et aspro.
Et aspro aussi, sûrement.
C'est une marque de Médoc, non?
C'est ça. Donc du coup, ce n'est pas la bonne marque. Non. Nous, on préfère l'aspirine des champs. Parce qu'elle est riche en acide salicylique, donc, avec des effets similaires à l'aspirine, sans les effets secondaires. Donc, elle est un antidouleur naturel pour les rhumatisants, les arthritiques et pour toute inflammation. Grâce aux tanins qui sont astringents, donc elle contient beaucoup de flavonoïdes aussi. Donc, c'est un très puissant anti-inflammatoire. Fébrifuge, anti-fièvre, donc tous les états inflammatoires. C'est très intéressant pour toute convalescence. Je galère avec mes lunettes. De me voir de près ou te regarder. Je ne sais pas quoi faire.
Ne regarde pas.
Bon,
regarde,
je ne te regarde pas,
feuilles.
Je regarde mes feuilles. Voilà. Donc, c'est quand même contre-indiqué pour les femmes enceintes ou allaitantes. Parce que je dis très intéressant d'en traiter toutes les inflammations, oui. Mais bon, pas pour cette catégorie de personnes.
Par contre, pour le reste de la vie des femmes, elle est
oui,
assez pertinente.
Oui, elle est très intéressante au niveau de, justement de la congestion pelvienne, tout ça. Elle peut vraiment aider, même quelques jours avant. J'ai la recette tout à l'heure là, de la tisane. Donc, pour un syndrome prémenstruel fort, tu vois, un SPM assez fort.
Je devine. Mais...
oui. Donc, ce serait intéressant de la voir avec avant... une semaine avant, les règles même, pour pouvoir bien commencer à désinflammer les tissus.
D'accord.
Voilà. Elle est intéressante à ce niveau-là, parce que normalement, une semaine avant, on peut vraiment ballonner. C'est affreux, mais c'est comme ça. Les sportifs aussi ont tout intérêt à l'utiliser. Après l'effort, donc sur les terrains inflammatoires, elle empêche les toxines de se fixer. En agissant, en désinfiltrant les tissus cutanés, elle élimine les œdèmes. Et donc, d'où les œdèmes et puis les inflammations.
Et ça, on le prend en tisane ou
en
tisane. Application locale?
En tisane, mais en fait, le macérat peut très bien servir, le macérat qu'on aura utilisé pour la tisane peut très bien servir à finir de désinflammer, par exemple, une articulation douloureuse. Puisque c'est une bonne antalgique, donc il ne faut pas se priver d'en mettre, si on peut, pas mal. Et on se le met en cataplasme, comme ça, le macérat après la tisane, quoi. Voilà. Elle draine aussi les reins. Elle augmente le volume des urines. Et elle précipite les calculs rénaux. S'ils ne sont pas trop gros, donc il faut faire attention à ça aussi. Il y a une expression d'ailleurs désuète qui dit qu'elle est reconnue pour faire passer la gravelle des reins. Voilà. C'est donc la fleur qui est la plus riche en molécules anti-inflammatoires, plutôt que la sommité. Mais on utilise l'infusion de fleurs et de sommité, 3 tasses par jour, par exemple pour de l'arthrose. Et on peut faire aussi en gélule, dosée à 250 mg, de le midi, de le soir, au cours des repas. Il y a aussi en EPS, en extrait de plantes standardisé, ou extrait hydroalcoolique. Et là, ce serait 30 gouttes dans un verre d'eau pour une cure, enfin au long cours. Et sinon, en cas de crise aiguë, ce serait 60 gouttes.
Ok, Qu'est-ce que c'est ça? C'est des plantes dans l'alcool?
Oui, voilà.
Dans les alcools.
Hydroalcooliques, oui, voilà. Donc ça, nous, on peut faire, notre base, en fait, on peut faire quand la plante est bien sèche, qu'elle a bien concentré tous ses principes actifs. Sinon, à la pharmacie, on peut faire un extrait de plante standardisé, si on demande...
D'accord.
Si on demande,
bon, l'intérêt de l'alcoolature, c'est notamment de la conservation, quoi. C'est qu'on peut le garder beaucoup.
Voilà.
Au moins plus d'un an.
Oui.
Les plantes sèches en tisane. Oui. Enfin, on vous invite quand même à vous faire sécher vos fleurs de reine des prés, mais
oui.
Après un an, elles perdent pas mal de leur vertu.
Oui, après un an, voilà. Après un an, il faudrait les jeter. Bon, j'ai un peu de mal, moi aussi.
Les changer.
Mais bon.
Ou les concentrer limite, plus, voilà. Peut-être, ou le faire de manière externe.
Ou alors faire justement, voilà, exactement. L'utiliser de manière externe, alors. Donc, il y a des précautions d'emploi quand même. Je vous parle aussi de ça, parce qu'à haute dose, elle provoque des hématuries, c'est-à-dire du sang dans les urines. Parce qu'elle est puissante. Il ne faut pas imaginer qu'une petite fleur, comme ça, c'est rien du tout. Non, elle a des constituants de chimie organique qui interagissent avec notre organisme à nous. Et donc, on ne peut pas toujours utiliser sans doser. Alors, bon, je vous donne, si vous voulez, une recette à peu près. Le dosage en général, c'est toujours dans les 100 grammes de fleurs pour un demi-litre. Un demi-litre d'eau. Voilà. À peu près. Il y a des contre-indications aussi pour les personnes allergiques à l'aspirine ou traitées aux anticoagulants. Donc je vais vous donner quand même la recette des règles douloureuses et la congestion pelvienne. C'est mélanger 50 g de sommité fleurie, donc de reine des prés, 50 g de vigne rouge, 50 g d'achille et millefeuille, 50 g d'ortie blanche et 50 d'alchimie, dans le chémie, dont on a parlé aussi le mois dernier. C'est la plante que j'avais choisie pour l'émission du mois dernier. Donc il faut compter 4 cuillères du mélange pour 1 litre d'eau. 4 cuillères à soupe, pardon, du mélange pour 1 litre d'eau froide. Laissez macérer quelques minutes parce que ce sont des principes volatiles et qui, c'est dommage parce que ça part avec la vapeur. Donc il faut essayer de ne pas trop porter à ébullition. On commence juste et quand ça fait des petites bulles, on peut laisser infuser 10 minutes, fermer, enfin voilà. Et boire une grande tasse toutes les 2 heures pendant les règles. Et avant les règles, par contre, en cas de syndrome prémenstruel, 3 tasses par jour entre les repas. Dans cette recette, il y a quand même... j'ai un petit clin d'œil pour Goethe, qui a parlé de l'Achillée et qui dit qu'elle est comme les personnes en société qui n'ont pas de talent particulier, mais dont la présence est bénéfique à tous. Bon. Hildegarde ne pensait pas la même chose, hein. Mais elle intervient beaucoup puisqu'elle est circulatoire, c'est la reine du sang et elle intervient beaucoup en interagissant avec d'autres plantes. Elle est toujours au milieu de ces plantes parce qu'elle va aider les inflammations, elle va aider à circuler, voilà. Donc on la trouve aussi partout en ce moment et l'année dernière je vous en avais parlé au mois de juillet, donc... Voilà, je voulais vous en reparler un tout petit peu.
Eh bien, merci. Ben, on vous invite à aller récolter vos plants d'achillée, choisir une belle journée ensoleillée, les
oui.
récolter plutôt vers midi, une fois que la rosée est bien
c'est
sèche.
C'est ça, bien
et puis,
sèche.
Où il y a un maximum de propriétés dans la fleur. Les récolter, on peut le faire à la maison, hein, les étendre par exemple. On
oui.
met une feuille de papier dans une caisse... on peut plier une caisse de légumes.
Une caisse un peu ouverte quand même. Enfin, il
voilà,
faut
on les
soit...
étale, on peut ouais. en superposer plusieurs et puis les mettre dans une pièce propre à l'abri de la poussière et un peu
et de
à
la lumière.
L'ombre. Et de la lumière
voilà,
directe.
À l'abri de la lumière directe. Parce qu'elles sont quand même assez fragiles.
Et puis attendre
disais.
Quelques temps et puis les mettre en sachet ouais. ou en bocaux.
C'est ça. On les tourne, on les retourne, où... on les aère un petit peu.
Et les stocker un jour où il fait chaud aussi,
oui.
où il fait bien sec et puis les mettre dans un endroit sec.
Bah, tu connais bien.
Voilà.
Oui. Alors, j'avais oublié de vous dire quand même qu'elle est aussi intéressante pour, avec son action sudorifique pour les états grippaux et fébriles. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc,
comme l'aspirine, en fait. Hein. On l'utilise comme
oui, tout à fait.
Classique contre un mal de tête aussi ou des états de fatigue.
Pour toute inflammation et fatigue aussi, oui, parce qu'elle peut être, elle, avec son astringence, elle est quand même assez tonifiante.
Ok, voilà. Bah, merci pour cette plante, donc, je vous rappelle, la reine des prés, merci Marie pour cette chronique plante. On va maintenant passer aux expérimentations zoïdesques avec un morceau Partir de Zoïde avec son ami Franck, c'est parti.
L'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges
sur les ondes de Radio Coteau
104.5
ou 97.7
FM
et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio
tous les premiers mardis du mois
à 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.